Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Avant d'entamer cette émission, je tenais à dédier cette page d'histoire, cette heure d'histoire que nous allons passer ensemble, à une jeune étudiante de 23 ans qui d'ailleurs aimait beaucoup l'histoire. Ancienne élève de sciences politiques, brillante, elle se destinait à une carrière journalistique puisqu'elle faisait toujours ses études au CELSA, l'école des sciences de l'information et de la communication de l'université Paris 4 Sorbonne. En 2006, elle avait interviewé pour Valeurs Actuelles l'académicien Laurent Laforgue, qui appelait à une refondation de l'école primaire. Et toujours dans le même hebdomadaire Valeurs Actuelles, elle avait aussi alerté ses contemporains, ses lecteurs, sur la façon dont était enseignée l'histoire de France dans nos écoles. J'aurais pu, un jour, l'appeler « cher collègue », je ne le ferai malheureusement jamais, puisque cette jeune fille a été la victime d'un criminel le dimanche 25 novembre vers 10h30 dans le RER D. À l'heure où nous enregistrons cette émission, ses obsèques auront lieu demain, le 30 novembre. Elle s'appelait Anne-Lorraine Schmitt. Je lui dédie donc cette émission, chère Anne-Lorraine, en présentant à vos parents mes sincères condoléances en tant qu'ancienne élève de la Sorbonne, mais aussi en tant que journaliste. Il y a quelques semaines, à l'occasion de la rencontre des académies européennes à l'Institut de France, le prince Otto de Habsbourg prononçait un discours sur l'universalité dans l'esprit européen. Peut-être pensa-t-il à un de ses lointains aïeuls, Maximilien d'Autriche, né en 1449, mort en 1519. Maximilien fut à la charnière de deux époques, celle des temps médiévaux et celle de la Renaissance. Grand-père de Charles Quint, gendre de Charles le Téméraire qui dominait l'Europe à la tête de la Bourgogne, il donna à l'Autriche une vocation. Austriae est imperare orbi universo. Il revient à l'Autriche de commander le monde. Telle était sa devise, largement contestée en son époque, prophète sans gloire en son pays. Il n'est pourtant pas exagéré de faire de lui le véritable fondateur de cette dynastie, celle des Habsbourg qui allait faire partie des grands d'Europe, parfois les dominer, ceci jusqu'à l'aube du XXe siècle. Louis XIV, en son temps, le blâma pour sa politique matrimoniale qui allait avoir des conséquences durables dans l'histoire politique européenne. L'historiographie, elle, fut tout aussi sévère, si ce n'est plus, le jugeant prétentieux, étrange et même fantasque. Qui fut donc Maximilien Ier, empereur allemand ? Fut-il conservateur ou au contraire réformateur en cette époque charnière de l'histoire européenne ? Quelles furent les forces intérieures et extérieures auxquelles il dut faire face, avec ou sans succès ? Et que peut-on retenir de son règne et qu'a-t-il transmis à ses descendants et à ses sujets ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Francis Rapp. Francis Rapp, bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous nous venez de loin, de Strasbourg très exactement. Spécialiste de l'Allemagne médiévale, vous êtes professeur émérite à l'université Marc Bloch de Strasbourg et vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et des belles lettres, où vous avez été élu en 1993. Auteur de nombreux ouvrages, je citerai notamment l'incontournable monographie « Le Saint-Empire romain germanique » dans la collection Point Histoire. Et vous venez de publier chez Talendier « Maximilien d'Autriche », donc une biographie. Ce livre, dites-vous, Francis Rapp, est le fruit, j'ai beaucoup aimé le terme, est le fruit d'une amitié, celle entre vous et ce personnage.
Certainement. Je l'ai rencontré très souvent, et en particulier lorsque j'ai commis un autre ouvrage, « Les origines médiévales de l'Allemagne moderne », le 15e et le début du 16e siècle, qui me paraissait être une époque d'extrême importance pour l'histoire de l'Allemagne. Et je l'ai découvert, je dois avouer que je ne le connaissais guère. Et j'ai été très frappé, justement, par le peu de considération que lui accordaient beaucoup d'historiens. Et il m'a semblé que ça n'était pas juste et qu'il y avait là un destin particulièrement dramatique, pour ne pas dire tragique. C'est quelqu'un qui a eu de grandes ambitions, mais qui n'a pas vu la réussite de ses projets, puisqu'aussi bien c'est son petit-fils, Charles Quint, qui a hérité de la maison d'Autriche qu'il a, d'une certaine manière, bâtie, n'est-ce pas, à laquelle il a donné les dimensions considérables, quasiment mondiales, puisque finalement, l'Espagne comprend l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et par conséquent, d'une certaine manière, Charles Quint a une autorité, parfois nominale, qui s'étend des Carpates jusque quasiment aux Philippines. Donc, il m'a semblé qu'un plaidoyer s'imposait. Et c'est ce que j'ai voulu faire.
Alors, toujours dans votre avant-propos, vous avez pris le parti, hein, vous l'écrivez, de décrire avant tout le souverain. Alors, le souverain, tout simplement parce que c'est son métier. Hein, être roi, être empereur était un métier, alors que c'est un personnage, et on le sent malgré tout à la lecture de votre ouvrage, même si vous ne décrivez que le souverain, qui a de multiples facettes.
Il a en effet de multiples facettes. C'est un homme qui, d'abord, je crois, est extrêmement sensible à ce que j'appellerais presque la mythologie chevaleresque. Il me paraît extrêmement important de noter que les autobiographies très romancées, très particulières et qui nous renseignent plutôt sur ce dont il rêvait que sur ce qu'il était en fait, n'est-ce pas, sont des espèces de romans de chevalerie. Alors, il y a cet aspect qui est tourné vers ce que nous considérons comme le passé, parce que pour nous, c'est le Moyen-Âge, et que c'est destiné à disparaître. Ça n'est pas pour lui, il n'a pas le sentiment de changer d'époque, en tout cas, il ne le dit nulle part. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par tout ce que les temps modernes comportent d'important. Il est très attiré par les techniques minières, par les techniques médicales même. Il va s'intéresser jusqu'aux remèdes de bonne femme. Il a une vie affective qui n'est pas dépourvue d'intérêt, ne serait-ce que parce qu'il reste fidèle, au-delà de la mort, à son épouse. Et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Sur le plan militaire, autant il est quasi constamment battu, autant il donne de l'importance aux armes, au sens large du terme, de l'époque moderne. Il développe l'artillerie avec une sorte de passion, puisqu'il donne des noms à ses canons et qu'il les nomme par leur nom. Et que d'autre part, il crée l'infanterie. L'infanterie, les fameux lansquenets, n'est-ce pas ?
Alors, nous allons revenir sur cet aspect, hein, le réformateur militaire, hein, puisque, comme beaucoup de règnes à l'époque, ce sont des règnes en guerre. Venons-en, si vous le voulez bien, Francis Rapp, à la chronologie, à ses origines, à sa naissance. Il naît le 22 mars 1459, pas n'importe quel jour, puisqu'il s'agit du Jeudi Saint, date ô combien importante dans la chrétienté. Et le choix du prénom, Maximilien, n'est pas dû au hasard. C'est un choix bien précis. Que signifie ce nom pour l'époque ?
C'est le nom d'un patron que l'Autriche, et en particulier Frédéric III, révérait, n'est-ce pas ? D'autant plus que c'est un nom qui n'est pas courant, n'est-ce pas ? C'est même une innovation dans la dynastie. Il est le premier, à ma connaissance, à porter ce nom de Maximilien. Ce sont des Léopold, ce sont des Rodolphe, ce sont des Frédéric, n'est-ce pas ? Mais pas des Maximiliens.
Saint-Maximilien est mort martyr, hein, vous l'écrivez dans votre livre. Et il y a, j'allais dire, une corrélation, un contexte avec la Turquie. On pense à cette Turquie qui est aux portes de l'Europe.
Oui, certainement. Là aussi, si vous voulez, il est certain que Maximilien, sincèrement, a pensé qu'il devait être le guide de la chrétienté et la conduire à la rencontre des Turcs, lesquels Turcs sont finalement tout près, n'est-ce pas ? Et 1456, on leur a donné un coup de frein sous les murs de Belgrade. Mais enfin, ils poursuivent leur avance. Et donc, une croisade contre les Turcs sous sa direction, c'est au fond son rêve. Et en réalité, il ne le fera jamais, comme la chrétienté tout entière ne le fera jamais. C'est donc là aussi cette contradiction entre ce qu'il veut, ce qu'il rêve de faire, et ce que finalement il est capable de faire.
Alors, vous avez évoqué ses descendants, j'en reste à sa naissance. Qui sont ses parents ?
Alors, je crois que ses parents, c'est comme tous les parents, c'est une donnée extrêmement importante pour le personnage. Et je commencerai par sa mère. Sa mère, portugaise, est la nièce de Henri le Navigateur. n'est-ce pas ?
Que nous avons étudié au cours d'une émission avec Michel Berger-Franceschi, le biographe d'Henri le Navigateur.
Le biographe, oui. Mmh. En effet, je crois que c'est très important, parce que Éléonore épouse Frédéric. Je pense que pour une princesse portugaise, épouser l'empereur, il venait d'être sacré, c'était même le dernier à avoir été couronné sacré à Rome, ben, c'était considérable. Et puis, finalement, elle se retrouve à l'étroit, dans des petits châteaux, sans prestige, sans apparat, n'est-ce pas ? Et puis, elle a un mari qu'on appelle, probablement avec une excessive sévérité, l'archibonnet du Saint-Empire, qui est un homme relativement âgé, calculateur, prudent, sans réel pouvoir. Et donc, elle transmettra à son fils, d'abord, elle aura devant son fils des paroles très sévères pour le papa, disant « si tu devais devenir comme ton père, je regretterais de t'avoir mis au monde », ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas ? Et donc, elle lui inculque, je crois qu'elle lui donne dans ses gènes, le goût des grandes entreprises, des vastes horizons, au fond, tout ce qui lui a manqué à elle une fois mariée. Alors que le père, d'abord le père, est l'auteur, pour autant que nous sachions, de ces E-A-I-O-U, Austriae est imperare orbi universo, qu'il a griffonné dans un carnet alors qu'il n'avait pratiquement plus de pouvoir, même comme empereur, et qu'en Autriche, il était assailli de partout. Mais c'est un homme méticuleux et c'est un travailleur. Maximilien, je crois que c'est une donnée, est un travailleur. Il passe des heures et des heures sur des textes, sur des calculs. C'est un travailleur, il tient de son père, il tient des deux. Mais alors, évidemment, comme ce sont des tempéraments opposés, à l'intérieur de lui-même, ce sont des données qui font mauvais ménage.
Je reçois Francis Rapp, auteur d'une biographie consacrée à Maximilien d'Autriche, un ouvrage paru chez Talendier. Nous nous retrouvons, Francis Rapp, dans un instant.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Francis Rapp, membre de l'Académie des inscriptions des belles-lettres, auteur d'une biographie, Maximilien d'Autriche, un ouvrage paru chez Talendier. Alors, nous avons vu un peu Francis Rapp, ses parents, Frédéric III et sa mère, la nièce d'Henri le Navigateur. Un point cependant important, il perd assez jeune sa mère.
Il perd sa mère très jeune, au fond, à l'âge de 6-7 ans, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il est sevré brutalement de la tendresse. Tendresse que le papa jugeait excessive en disant, à force de le gâter avec des friandises portugaises, tu vas lui ruiner le tempérament, n'est-ce pas ? Mais après, il tombe sous la coupe de maître qu'il prendra en aversion. Quand plus tard, un jour, il traitera son principal adversaire dans l'Empire, l'archevêque de Mayence, de maître d'école, ça n'est pas un compliment, c'est vraiment le signe de son mépris. Et seulement, il aura une éducation sévère et sans beaucoup d'enthousiasme, il apprendra incontestablement beaucoup de choses. Mais son tempérament restera extrêmement vif. Les habitants d'Ulm, la ville de l'Allemagne du Sud, le verront un jour grimper sur le clocher qui était l'un des plus hauts de l'époque. N'est-ce pas ? Bon, il est capable de toutes sortes de prouesses physiques. Il a une vitalité physique considérable et il faut qu'il l'exprime.
Oui, on le voit sur la couverture, c'est un homme charpenté.
Oui.
Il a été représenté par Dürer. Quels étaient ses rapports avec son père ? Le père, vous en faites le portrait, n'était pas un homme facile.
Le père n'était pas un homme facile et le père était très inquiet. En pensant que le seul fils, parce qu'il ne restait que Maximilien et sa sœur Cunégonde, n'est-ce pas, que beaucoup d'enfants étaient morts très jeunes, que son seul fils, d'une part, avait beaucoup de mal à parler, quand il l'a entendu au moment de son couronnement comme roi des Romains en 86 parler, le père en avait les larmes aux yeux, parce que jamais il pensait, jamais je n'aurais pensé qu'il puisse parler correctement. Mmh. Bon. Et puis d'autre part, il a toujours trouvé qu'il était déraisonnable, qu'il avait des idées beaucoup trop hardies, qu'il voulait faire trop de choses. Et il a beaucoup hésité avant de le faire sacrer roi des Romains, n'est-ce pas, à Aix. Parce qu'il sentait que là, il était coadjuteur avec droit de succession. Donc, on ne pouvait plus l'empêcher d'accéder au pouvoir. Et il en avait peur. Mmh. Incontestablement, le père et le fils ne s'entendaient pas. Parce que le père, qui avait été échaudé, il avait eu tellement de difficultés avec les Hongrois, avec les princes d'Allemagne, etc., qu'il était devenu un peu étriqué. Et le fils ne voulait pas de ça. Il voulait quelque chose de grand, de neuf, d'important.
Quelle est à l'époque la place de la maison d'Autriche en Europe ? Parce que quand on lit votre ouvrage, il faut bien distinguer ce qui relève des États héréditaires, la maison d'Autriche, et de ce qui relève du territoire impérial, du titre d'empereur.
Oui, incontestablement. La maison d'Autriche, cette principauté, ou plus exactement, les Autrichiens s'intitulent depuis le XIVe siècle archiduc. C'est un titre qui leur est en fait réservé à cette époque. C'est une maison parmi d'autres. Elle n'est pas en réalité tellement plus importante que le Palatinat, que le Wurtemberg ou le Brandebourg, n'est-ce pas ? Elle est, par-dessus le marché, en proie à de grosses difficultés, puisque s'étendant, s'étirant en quelque sorte du pied des Vosges, puisque le Haut-Rhin est autrichien en grande partie, jusqu'aux portes de la Puchta, en plusieurs morceaux, ce n'est pas un ensemble continu, elle est divisée entre plusieurs branches de la maison des Habsbourg, et ce qui accentue sa division, en fait, parce que ce sont des seigneuries avec des coutumes différentes, avec des richesses différentes. Il n'y a pas véritablement de sentiment autrichien.
Oui,
C'est une des données de l'œuvre de Maximien que d'avoir réussi à créer une sorte de patriotisme commun à tous les États d'Autriche. En plus, elle est en difficulté avec la Hongrie, parce que le prédécesseur de Frédéric III avait hérité de trois couronnes, la Bohême, l'Empire et la Hongrie. Et qu'il y avait un petit garçon, Ladislas, le posthume, qui héritait tout ça. Et Frédéric devait essayer de garder tout ça. Et il n'a rien gardé du tout, finalement. Si, sauf la couronne impériale, n'est-ce pas ? Et donc, à plusieurs reprises, les Hongrois, avec Matthias Corvin, ont fait irruption dans les États autrichiens. Ils ont pris Vienne, ils ont pris Wiener-Neustadt, qui était le lieu de naissance de Maximilien, et la capitale de la Styrie, donc de Frédéric. Donc, c'est quelque chose dont je serais presque tenté de dire que sur la carte européenne, ça ne compte pour ainsi dire pas, ou pour très peu, n'est-ce pas ?
Vous dites que la maison de Bourgogne, à laquelle il va s'allier par son mariage, est bien plus importante.
Incontestablement, incontestablement. Elle est bien plus importante, elle est centrale, elle est riche.
Elle a un pouvoir politique.
Elle a un pouvoir politique, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que Charles le Téméraire est un cousin des rois de France, et que par conséquent, il va, comme ses cousins français, enfin français il l'est aussi, mais comme ses cousins qui sont à la tête du royaume d'Hélice, il va essayer de doter, et il y réussira partiellement, ces États de structures administratives, de réalisations culturelles extraordinaires. Alors, pensez bien, quel mariage pour Maximilien que d'avoir la plus riche héritière d'Europe.
C'est une date très importante de sa vie. Et d'ailleurs, dans votre dernier chapitre, tient lieu un peu de conclusion, vous dites que ces années bourguignonnes, pour Maximilien, donc qui se marie avec Marie, ce sont ses plus belles années et elles l'ont beaucoup marqué dans sa conception des choses.
Elles l'ont beaucoup marqué, je crois, d'abord parce qu'il a joué le rôle dont il rêvait et qui était celui du chevalier, et qui va au secours de la belle dame et qui tue le dragon, qui l'empêche de lui faire du tort et qui l'épouse. Alors là, il a commencé par l'épouser. Et puis le dragon, c'est-à-dire Louis XI, le parrain de Marie, qui voulait prendre un peu sa revanche sur Charles le Téméraire, il ne l'a pas battu, il ne l'a pas écrasé, mais enfin, il l'a tenu à distance. Mmh. Et puis alors, la deuxième raison, bon, alors il y a son entente avec Marie de Bourgogne. Il est évident que c'était un mariage d'amour.
Alors qu'au départ, c'était un mariage politique.
Alors que c'était une opération politique. Mmh. C'est ce qu'il y a de touchant, en quelque sorte. Ça pourrait être une raison, et en réalité, c'était un éblouissement. N'est-ce pas ? Maximilien, très jeune homme, avait assisté à la rencontre de son père et de Charles. Et Charles lui avait fait une impression extraordinaire. D'une certaine manière, il n'épousait pas Charles, mais il épousait la fille de Charles. Alors déjà, ça, c'était important. Et puis, elle lui a plu. Il avait quelques expériences féminines, n'est-ce pas ? Et il dit, si, c'est la plus belle que j'ai jamais vue, n'est-ce pas ? Elle était un peu plus âgée que lui. Et il est touchant de voir qu'entre 1482 et sa mort, 1519, il n'oubliera jamais Marie de Bourgogne, et elle figure sur son mausolée, n'est-ce pas, en bonne place. Et puis alors, le troisième point, c'est que la Bourgogne, justement, la Bourgogne, c'est cette réussite à tout point de vue, ce sont les musiques, les orgues, les chorales, les tableaux, les sculptures, enfin toute cette richesse, et puis cette construction politique. C'est-à-dire que, au fond, d'une certaine manière, Charles le Téméraire avait des États dispersés, avait des États qui n'étaient même pas soudés les uns aux autres. Il a voulu en faire une unité, n'est-ce pas ? La Bourgogne, il a d'ailleurs assez largement réussi, presque à titre posthume. Et Maximilien hérite en Autriche d'États dispersés qui n'ont pas de sentiments communs. Et il va essayer, et il va dans une assez large mesure, réussir à en faire une unité, un peu dans toute la mesure du possible. Il ne peut pas copier la Bourgogne, carrément, mais il s'inspire de l'exemple bourguignon.
Alors, il y a l'Autriche, mais il y a aussi l'Empire. Que représente l'Empire à cette époque ?
Alors, l'Empire, c'est le drame de l'Allemagne, n'est-ce pas ? Je pense. Parce que l'Allemagne et Maximilien ne peuvent pas se passer de l'Empire. L'Empire, ça n'est pas seulement un titre. L'Empire, c'est une gloire. L'Empire, ce sont de grands souvenirs. Frédéric Ier Barberousse, Frédéric II, ce sont de grands souvenirs. Et puis, c'est même, pourquoi pas, l'héritage de Charlemagne. Et puis, c'est l'Empire chrétien. Là. Bon. Et en même temps, il n'y a plus moyen d'en faire quelque chose de fort, n'est-ce pas ?
Est-ce que c'est une forme de romantisme à l'époque ?
Ah, certainement, certainement. Mais un romantisme qui nourrit ce qui reste ou ce qui est encore là d'attachement des Allemands. Mmh. C'est ce qui unit les Allemands, n'est-ce pas ? C'est la grande patrie. Mais la grande patrie qui ne prend pas corps, parce qu'ils sont tout aussi attachés, c'est l'autre aspect, à leur liberté. Et ils ont leur petite patrie. Et ça reste encore de nos jours, n'est-ce pas ? Le Land, les capitales, n'est-ce pas ? Bon, et donc, il est très difficile d'imposer aux princes, aux évêques, etc., un effort commun, une structure commune, parce que dès qu'on touche à ce qu'ils ont bâti, pendant que l'empereur se battait avec les papes, ils se rebiffent. Et donc, Maximilien se trouve en présence d'un empire qu'il fait sien, avec cette idée de dominer la chrétienté tout entière, et dont il voudrait bien faire quelque chose de cohérent, et ça ne va pas. Ça ne va pas, les princes ne veulent pas. Et alors c'est là qu'on rencontre cet archevêque de Mayence, Berthold de Henneberg, avec lequel il avait concocté d'abord des plans de réforme. Mais dès que Henneberg s'est rendu compte que c'était les plans de réforme qui visaient à donner au souverain, à l'empereur, des pouvoirs, il a freiné et il est devenu en quelque sorte le leader de l'opposition princière. Et il a surtout abouti à cette donnée tout à fait essentielle de distinguer l'empereur et l'empire. L'empereur est au service de l'empire. L'empereur et l'empire ne se ne se confondent plus, n'est-ce pas ? L'empereur, maintenant, il est au service de l'Empire et éventuellement, et pendant quelques mois, il a réussi à faire ça, les princes et les seigneurs réunis dans la diète décident, et c'est à l'empereur d'être le pouvoir exécutif, n'est-ce pas ? Alors, Saint-Maximilien ne peut pas vouloir ça, n'est-ce pas ? D'autant plus qu'il a des intentions, et plus que ça, des projets, des plans précis d'opérations à l'extérieur, et que pour ça, il faudrait faire du financement, et que le financement, on ne lui en donne pas.
C'est le grand âme de sa vie, la question financière, elle revient un peu comme un leitmotiv dans votre ouvrage. Francis Rapp, nous nous retrouvons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Je reçois le biographe de Maximilien d'Autriche, Francis Rapp, membre de l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Francis Rapp, donc vous avez écrit cet ouvrage, paru chez Talendier. Nous évoquions à la fois la maison d'Autriche, puis ensuite l'Empire, cette notion d'Empire qui est très importante. Et quelle place cette notion d'Empire prend-elle en face de l'émergence chez ses voisins, en France, en Angleterre, de l'État moderne? Est-ce que l'Empire arrive à accrocher cette modernité?
Non, je pense que précisément, elle n'y parvient pas. Et d'une certaine manière, le heurt se fait en Italie. Parce que l'Empire comporte théoriquement trois royaumes. Le royaume de Germanie, le royaume de Bourgogne, qui fait que, n'est-ce pas, la frontière de l'Empire et du Royaume, c'est le Rhône, c'est la Meuse, n'est-ce pas ? Donc, l'Empire de Bourgogne, le Royaume de Bourgogne, pardon, et le Royaume d'Italie. Et donc, pour Maximilien, l'Italie fait partie de son domaine, n'est-ce pas ? Or, il n'en reste pratiquement rien. Un peu le Milanais encore. Bon, c'est un peu pour ça qu'il épousera en seconde noce la nièce de Ludovic Sforza, avec des arrière-pensées financières. Mais pour les États modernes, l'Italie, ça n'est pas un reste de l'Empire, ça n'est pas du tout. C'est le lieu où se concentrent toutes les richesses et où se déploieront toutes les ambitions. L'ambition française et l'ambition espagnole. Et donc, des ambitions qui disposent de moyens. Le roi de France a cette énorme armée qui dévale tel un torrent à travers les rues de Florence. Vous savez, c'est le beau récit de Michelet. Le roi d'Espagne a aussi son infanterie, les fameux tertios, etc. Et Maximilien n'a rien. Pratiquement, il n'a rien. Même ses canons qu'il aime dedans, il n'a pas assez d'argent pour les amener au siège de Livourne et il sera obligé quasiment avec des arquebuses. Ça sera un échec complet. Donc, l'Empire n'est pas accepté et ne peut pas l'être. Et c'est aussi un des drames de Maximilien. C'est qu'il est héritier et il a accepté cet héritage d'une idée considérable qui est l'idée d'Empire. Et qu'il n'est pas question un seul instant. En France, le roi est empereur en son royaume depuis Philippe le Bel, n'est-ce pas ? Et non, personne ne veut. C'est-à-dire que si, François Ier voudra être empereur, n'est-ce pas ? Et finalement, celui qui l'emportera, c'est Napoléon Bonaparte, qui sera empereur.
Alors, il y a bien évidemment bien d'autres éléments sur cette notion d'empire. L'empire n'est pas une monarchie dynastique. Est-ce qu'il arrive, lui, à imposer sa dynastie ?
Oui, c'est effectivement très curieux que l'Empire est donc électoral depuis toujours. C'est une monarchie, donc le souverain est élu. Depuis 1356 et la Bulle d'Or, il est élu par 7 électeurs. Selon une procédure minutieusement prévue pour qu'il y ait et pour qu'on évite les élections contestées, par conséquent les candidats qui s'affrontent, comme ça avait été souvent le cas. Donc c'est une élection, et ça restera une élection jusqu'à la fin du Saint-Empire. Et ce sont les Habsbourg qui vont, sans interruption, à partir de Frédéric III, déjà avec Albert, mais enfin à partir de Frédéric III, être élu. Alors je pense que c'est pour assurer une certaine continuité. Je pense que l'histoire de l'Empire est très, très attachante. On serait tenté de dire, oui, c'est une vieillerie, qui ? En réalité, l'Empire fait partie du sentiment national allemand et l'idée que cet Empire pourrait disparaître n'est pas acceptable. Je crois que, je quitte un tout petit peu notre cadre chronologique, que l'Empire ait résisté à la division confessionnelle montre son caractère indispensable aux Allemands, n'est-ce pas ? Parce que, bon, des protestants, des catholiques qui se détestent, qui finiront par se massacrer et qui pourtant vivront jusqu'en 1805 ou 1806 ensemble, parce qu'ils auront fini par trouver un moyen. Et alors, la continuité dynastique des Habsbourg, de Habsbourg auxquels on a renié les ongles, n'est-ce pas ? Qui ne pourront plus faire de l'Empire ce dont ils ont rêvé, c'est-à-dire un État monarchique, mais ça assure une continuité. Et par conséquent, on sait qu'entre autres, les Habsbourg ne voudront pas de sa disparition et que la pérennité de cette institution faible, mais forte dans le cœur et dans la tête des Allemands, n'est-ce pas, est assurée.
Alors, dans ce contexte, il y a une date très importante et finalement, on la connaît peu quand on fait un peu de recherche sur Maximilien d'Autriche sur Internet. Tout ce que l'on peut trouver sur les dates de sa politique matrimoniale sont beaucoup plus importantes que la date que je vais donner, celle du 18 juillet 1515, le fameux congrès de Vienne, qui est, vous dites, la base de la future monarchie austro-hongroise. Donc, c'est une date quand même très importante dans l'histoire européenne.
Certainement. Si vous voulez, c'est le glas d'une grande espérance politique de l'Europe orientale, n'est-ce pas ? Les Jagellons, qui sont au départ des ducs de Lituanie, qui se convertissent seulement à la fin du XIVe, et qui étendent leur possession, leur autorité, jusque pratiquement aux rives de la Caspienne, qui possèdent la Pologne, qui possèdent la Bohême, qui possèdent la Hongrie, n'est-ce pas ? Font un bloc tout à fait énorme, fragile d'ailleurs, bien entendu. Mais, au fond, c'est l'intrusion dans cet ensemble des Habsbourg, n'est-ce pas ? Puisque le double mariage d'une princesse habsbourgeoise avec un Jagellon et d'un prince et d'une princesse. Donc, ce double mariage homme-femme, n'est-ce pas, des deux maisons, fait que quand en 1526, le dernier Jagellon sera tué par les Turcs à Mohács, en 1526, tout, pas la Pologne, mais la Bohême et la Hongrie vont tomber dans le giron des Habsbourg. Et alors, c'était des négociations difficiles parce que la partie n'était pas si simple entre Maximilien et les Jagellons, le Polonais, et puis d'autant plus que le Polonais savait que Maximilien entretenait des relations avec le prince de Moscou, n'est-ce pas ? Et qu'il avait envisagé de le faire prendre à revers. C'est certainement l'opération la plus habile qu'il ait faite. Et celle qui a eu des conséquences extrêmement importantes.
Que blâmer Louis XIV ?
Ah oui, bien sûr.
Que blâmer Louis XIV ? Alors, il y a une autre date, il y en a bien évidemment de multiples. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Mais il y a une date qui peut paraître un peu fantasque. C'est celle du mois de septembre 1511. L'empereur veut coiffer, s'il vous plaît, la tiare, la tiare pontificale. Un laïc peut-il devenir pape ?
Ah, c'est-à-dire que le premier pape était naturellement laïc. Il était même marié puisqu'il avait une belle-mère et qu'un des premiers miracles de Jésus, c'est de guérir la belle-mère de Pierre quand il vient manger chez eux et qui veut probablement déjeuner ou dîner convenablement. Non, mais parlons sérieusement. À cette époque-là, ça ne peut pas être envisager sérieusement. Simplement, il dit, je ne suis pas marié, je ne suis plus marié, puisque Blanche est morte. Et donc, Voyez, c'est évidemment fantasque, et puis ça n'a pas duré beaucoup. On l'a retenu, si vous voulez,
Exactement.
On l'a retenu parce que ça permet de dire oui.
Alors, de coller une étiquette, alors que dans votre ouvrage, ça ne prend que deux pages.
Oui, alors, et je dois dire qu'une partie de ce texte est consacrée à la correspondance qu'il a avec sa fille.
Oui.
N'est-ce pas ? À laquelle il dit... on le voit sourire un peu quand il le dit. Je te promets, je ne toucherai plus aucune femme nue quand je serai quoi. Ce qui, entre parenthèses, est un croche-patte à Alexandre VI et un certain nombre d'autres. Moi, je serai correct, et puis tu pourras m'adorer, n'est-ce pas ? Quand je serai. Et elle lui répond en substance : bon, écoute. Tu es trop vieux maintenant pour t'occuper de choses pareilles. Bon, oui, il y a pensé, mais je crois que c'était au moment, il faut bien dire, c'était au moment où le roi Louis XII avait essayé autre chose. Il a fait un concile, n'est-ce pas, le concile de Pise, qui n'a d'ailleurs tourné court, pour essayer de faire revivre le conciliarisme, le gallicanisme, etc. Et il a voulu entraîner Maximilien dans cette affaire pour faire basculer Jules II dans la défaite. Ce que Maximilien n'a pas fait, d'ailleurs, n'est-ce pas ? C'est un personnage incontestablement imaginatif. Imaginatif, et je crois que c'est ce qui explique un trait de caractère que ses collaborateurs déploraient. Quand il a eu une idée sérieuse, il s'y accroche. Celle-là n'était pas sérieuse, il ne s'est pas accroché. C'est-à-dire que son cerveau lui donne tellement d'idées qu'il se rend bien compte que tout ça grouille, ça, c'est pas important. Il faut, alors à coup de travaux, de mémoire, de choses, il aboutit à une idée, ça a été assez difficile d'en dégager une, et alors il s'y tient, et il vient têtu. Et les conseillers n'ont plus grand-chose à dire.
Alors, il ne faudrait pas réduire sa religiosité, si vous me permettez cette expression, à cette histoire, à cette histoire d'accession au trône pontifical. C'était un homme qui, vous le décrivez là aussi, qui était très religieux. Hein. Nous vivons une époque de foi. Le tableau de la couverture omet de montrer ses mains qui portent une grenade, qui est le signe de l'unité de l'Église. Il avait un sentiment très aigu, il avait une foi très forte.
Il avait certainement une foi très forte. Bien sûr, nous serions tentés, en homme moderne, avec les exigences morales de l'homme moderne, de condamner cette cohabitation dans un même homme de mœurs parfois un peu légères, n'est-ce pas ? Quand il dit qu'il ne touchera plus à les femmes nues, c'est qu'avant il le faisait, n'est-ce pas ? Et qu'il avait ce qu'il appelait des femmes accouchées, des Schlafweiber, n'est-ce pas ? Mais ça... ça lui donnait peut-être l'impression qu'effectivement qu'il était pécheur. Mais il était en même temps très, très attaché. Il avait d'ailleurs des confesseurs qui n'étaient pas quelconques. L'abbé Trithem, avec l'abbé de Sponheim, avec lequel il correspondait, c'est plus discutable. C'est à lui qu'il posait des questions, comme par exemple, pourquoi est-ce que la Bible n'est pas claire ? Pourquoi est-ce qu'on peut tellement discuter là-dessus ? Mais c'est Grégoire Reich qui l'a fait venir à son lit de mort. Et qui était chartreux à Fribourg, qui est un homme d'une culture considérable, extrêmement profond. Et donc, je crois qu'il avait une authentique vie personnelle. Et d'ailleurs, sa mort même, est celle d'un homme très pieux. Et dans l'iconographie, le dessin, la représentation assez gauche, assez maladroite du cadavre, avec cette espèce de béguin qui enserre une tête amaigrie, n'est-ce pas, dans un cilice. Il a voulu mourir de manière extrêmement conforme aux habitudes et aux rites de cette époque.
Oui, on lui rase la tête.
On lui rase la tête, je crois que même qu'on lui arrache les dents. Qu'il ait vraiment, qu'il soit complètement émacié, défiguré.
Oui, c'est l'homme nu devant son créateur.
Devant son créateur.
Francis Rapp, nous nous retrouvons dans un instant pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite.
J'ai deux amants. Il avait pour parrain le tsar Alexandre III et pour père le grand acteur Lucien Guitry. Sacha Guitry a conquis le public français sur scène et au grand écran. Canal Academy dédie une série d'émissions à Guitry, avec celui qu'il a connu personnellement, Alain Decaux, avec celui qui s'y réfère à toute occasion, Jean-Marie Rouart, avec celui qui admire son naturel, Félicien Marceau. Nous vous proposons de décrypter le cinéma de Sacha Guitry avec les commissaires de l'exposition de la Cinémathèque et d'analyser la figure de Napoléon dans ses œuvres. Canal Academy fête enfin Guitry et la comédie musicale Guitry et Yvonne Printemps. C'est sur Canal Academy en partenariat avec la Cinémathèque française.
Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser.
Nous entrons dans la dernière partie de l'émission consacrée à Maximilien d'Autriche. Francis Rabb, vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée à cet empereur, une biographie parue chez Talendier. Alors nous avons évoqué beaucoup d'aspects de cette personnalité très très complexe. Nous disions en début d'émission, et c'est un point très important, c'est un homme qui s'intéressait à beaucoup de choses, qu'il avait beaucoup inventé. Il avait une culture étendue, une culture extraordinaire. Il estimait d'ailleurs beaucoup les savants.
Il estimait incontestablement les savants, les littéraires, les savants, mais en particulier les littéraires, puisqu'il a repris la coutume qui avait été créée par Pétrarque. Une couronne de laurier remise aux personnalités qui ont des mérites jugés exceptionnels dans le domaine des arts et des lettres. Mmh. Son père l'avait continué et il l'a fait systématiquement. Mmh. C'était même probablement un aspect de sa politique. Mmh. Parce qu'il attendait, et généralement il n'était pas déçu, de ceux qu'il avait couronnés qu'il fasse son éloge. N'est-ce pas ? Il s'est d'ailleurs servi beaucoup de l'imprimerie. Il ne pouvait pas bâtir. Oui. Il ne pouvait pas bâtir puisqu'il n'avait pas l'argent nécessaire. Mais alors, quand il a fait ce Triumphzug, cette marche triomphale, une bande dessinée de 57 mètres de long, de gravure, n'est-ce pas, qui représente tout ce qui lui tient à cœur, en particulier les lansquenets, mais pas seulement. Toute sa vie défile en images et doit conduire à un arc de triomphe qu'il a demandé aussi à un certain nombre d'artistes, là aussi, des gravures, n'est-ce pas ? Et dans l'Arc de Triomphe, on pourrait passer des heures. Tout y est, même l'hermétisme, le souci de l'ascendance qui le conduit jusqu'à Troyes, n'est-ce pas ? Parce que, bien entendu, puisque les rois de France se rattachent à Troyes, il faut bien que l'empereur aussi s'y retrouve. L'Égypte, enfin, c'est un homme qui se sert de la... Par exemple, il prépare une campagne en Italie en disant « Il faut absolument que la chrétienté se ressaisisse. Il y a des croix, des pluies de croix qui se manifestent dans certaines régions. C'est le signe que il est temps, la fin du monde se pro... » Et il inonde en quelque sorte. Ou quand il lui est arrivé d'avoir des victoires, ou quand il a fait jeter, j'allais dire, pas par avion bien sûr, mais des tracts incitant les Vénitiens à se soulever contre les doges et les patriciens. C'est les prémices de la propagande moderne. Il a très bien compris que cette imprimerie, avec l'image et avec le texte, était un moyen d'action considérable. Et quand il a battu les Bavarois en 1504-1505, à moindre frais, il ne s'est vanté, il s'est mis en scène, c'était très, très, très frappant. C'est, de ce point de vue-là, évidemment, cet homme qui est le dernier chevalier dans la tradition germanique, on l'appelle le dernier chevalier, est en même temps un homme moderne, dans ce sens que c'est pas parce que c'est moderne, c'est parce que c'est, mais parce que c'est important, parce que c'est intéressant, parce que ça change les conditions ou de la bataille ou de la vie.
Alors l'historiographie allemande, dites-vous, en faisait un prétentieux. Était-il réellement prétentieux ? Parce que vous décrivez tout le travail de mémoire pour inscrire son histoire. Il faut la graver dans la mémoire des gens et la graver dans la mémoire des gens par la publication d'œuvres.
Si vous voulez, il est prétentieux dans ce sens qu'il n'a pas pu faire autre chose que jeter les bases de la monarchie austro-hongroise, mais de l'ensemble énorme de Charles Quint. Mais ça, au fond, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait volontairement, qu'il l'a fait par hasard, non, certainement pas. Mais être le leader de la chrétienté pour battre les Turcs, non, ça, il ne l'a pas eu. Et donc, dans ce sens-là, mais qu'il ait eu des ambitions énormes, ça c'est incontestable. Et qu'il ait surtout voulu marquer la mémoire, n'est-ce pas ? Il vient de se faire rosser lamentablement par les Suisses. Il traverse le lac de Constance et il dicte à son secrétaire les éléments de sa biographie. Et c'est une biographie victorieuse. Donc, c'est quand même son idée. Mmh. Alors, il y a ce mausolée qu'il ne verra pas. C'est son arrière-petit-fils, même, je crois qu'il le terminera, qu'il ne verra pas, mais qui rassemble pas seulement ses ancêtres, mais le roi Arthur, donc la chevalerie, Clovis, son ancêtre mythique, ses épouses, les Césars, Jules César se trouve parmi les... Donc, tout l'univers mental de Maximilien est inscrit dans le bronze et coulé dans le bronze autour de sa tombe à Innsbruck, n'est-ce pas ?
Alors, il y a un aspect qui est finalement attachant, et c'est votre conclusion, qui est attachant chez ce personnage. Il peut toujours y avoir un conflit dans les sociétés, même dans les entreprises, à savoir, faut-il préserver ce qui existe ou bien au contraire aller de l'avant et trouver d'autres idées. Et là, vous le présentez à la fois comme un réel politiqueur et comme un rêveur. Et il arrive à incarner ces deux idées que généralement on oppose. Et c'est ce qui le rend extraordinaire.
Certainement, c'est ce qui m'a le plus frappé, si vous voulez, n'est-ce pas ? C'est qu'on est injuste en disant « cet homme est un fantoche, cet homme prétend être pape ». Enfin, bon, tout ça n'est pas sérieux, il n'a rien, c'est Maximilien sans le sou, il ne compte pas. C'est le petit gars qui se précipite sur la scène de théâtre où jouent les grands avec des grands rôles et lui ne peut rien dire que des discours prétentieux et ridicules. En réalité, il a fait ce que tous les autres n'ont pas pu faire, n'est-ce pas ? La carte de l'Europe est tout à fait modifiée, et en particulier la maison d'Autriche, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas si loin de la place de la Concorde, là où Marie-Antoinette, je pense qu'elle a été, je ne sais même pas si c'était à la Concorde ou ailleurs, qu'elle a été guillotinée, n'est-ce pas ? Et Marie-Antoinette a été la pauvre fille qu'on a fourrée dans le lit de ce pauvre Louis XVI qui n'y pouvait pas grand-chose, n'est-ce pas ? Parce qu'il s'agissait de garantir ce qui était invraisemblable, le renversement des alliances. Et l'Autrichienne est venue. Et alors l'Autrichienne était coquette, l'Autrichienne était ceci, l'Autrichienne était cela. Et il n'était évidemment pas question de rendre l'Autrichienne à l'Autriche. On l'a décapité dans des conditions qui ont fait de cette petite coquette évaporée au début une femme digne, n'est-ce pas ? J'irai jusqu'à 1870, parce que l'idée qu'un Hohenzollern puisse être roi d'Espagne et que la France se retrouve une fois de plus avec l'Espagne au sud et la Prusse au nord, il n'en était pas question, n'est-ce pas ? Et à Ems, on a dit « Non, il n'en est pas question ». Alors là, Bismarck, très bien. Mais c'est la même hantise. On ne veut pas être repris en tenaille entre les deux branches d'une même famille.
Alors, pour rappeler même le souvenir de Maximilien d'Autriche, je lisais hier un ouvrage, peut-être une petite anecdote personnelle que je ne fais quasiment jamais. Je lisais un livre sur Charles d'Autriche, donc Charles de Habsbourg, le dernier empereur d'Autriche. Et pendant la guerre, Guillaume Hohenzollern tient à vendre en quelque sorte le Tyrol aux Italiens pour mettre les Italiens de son côté. Et Charles ne veut pas. Et le Tyrol, c'est Maximilien d'Autriche.
C'est ça, tout à fait. Tout à fait.
C'est une terre d'empire depuis quatre siècles.
Depuis quatre siècles, oui. Et puis, c'est une terre qui est particulièrement précieuse pour Maximilien, puisque c'est là que se trouvent les mines d'argent et les mines de cuivre. Il survit grâce aux fougères, aux banquiers d'Augsbourg, auxquels il dit « Vous me donnez de l'argent et je vous donne et je vous cède les mines, n'est-ce pas ? Et finalement, il y a une symbiose telle que lorsque Maximilien dit « c'est mon petit-fils qu'il faut présenter à l'Empire » et qu'il faut graisser la patte des électeurs, François Ier est obligé de le faire à cash, n'est-ce pas ? Il est obligé de payer, hein, parce que c'est temps. Bon. Mais Fouguer a un tel crédit qu'il dit « je ne paye pas, je vous payerai si ». N'est-ce pas ? Et Fourier le fait parce que si les Habsbourg sont battus à cette élection de 1519, c'est sa maison, à lui, banquier, qui risque de s'écrouler. Donc il y a vraiment une symbiose, les deux. Et tout ça, c'est fondé sur le Tyrol, d'où l'importance d'Innsbruck, n'est-ce pas ? C'est le cœur de c'est le centre. C'est d'une certaine manière le centre géographique même, entre un empire qui va vers le Danube, et puis les Pays-Bas, Innsbruck est à peu près un point central. Et parmi les choses qu'il faut évoquer pour la modernité, c'est les postes. Les tournées en taxis, n'est-ce pas ? C'est cette grande famille qui reste très grande, à Ratisbonne, etc., ont été les premiers chargés de créer un secteur postal. Et ils ont créé des lignes de poste jusqu'à Moscou. À la demande de Maximilien, n'est-ce pas ?
Alors, j'en viens, et ce sera sûrement le mot de la fin, Francis Rapp, au personnage lui-même. Est-ce qu'il avait de la mélancolie ? Vous avez une phrase que j'aime beaucoup. Vous vous demandez, connaissait-il la maxime d'Aristote reprise par Cicéron et selon laquelle tous les hommes intelligents sont mélancoliques ?
Oui, c'est, n'est-ce pas ? Et la mélancolie est une des gravures les plus célèbres et les plus énigmatiques de Dürer. Et que probablement, il peut avoir vu la mélancolie de Dürer. Et la mélancolie de Dürer rassemble tous les symboles des sciences, les livres, les globes, les compas, etc. Ouais, ouais, ouais. Et le personnage est assis, la tête dans la main, n'est-ce pas ? Et pensif. Parce que la masse des connaissances entraîne la masse des problèmes. Et donc, on ne peut pas les saisir tous. Un homme simple qui a deux ou trois idées les poursuit et ne fait que ça. Et justement, Maximilien a beaucoup d'idées. Ouais. Et éventuellement, ça n'est pas inconciliable avec ses poussées de vitalité fortes, n'est-ce pas ? C'est l'homme qui physiquement ne supporte pas trop longtemps d'être recroquevillé sur ses problèmes et qui alors explose. C'est un colérique, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Quand il traite le pape d'ivrogne, il est vrai que le pape avait dit « c'est une mauviette, il n'est pas capable de vider un tonnelet de vin », n'est-ce pas ? Donc, un dialogue assez curieux entre pape et empereur.
Eh bien, Francis Rapp, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu au micro de Canal Académie pour évoquer ce personnage extraordinaire, Maximilien d'Autriche. Maximilien d'Autriche, tel est le titre de votre biographie paru chez Talendier. Merci beaucoup et à très bientôt. Cette émission était consacrée donc à Maximilien et je souhaitais la dédier à Anne-Lorraine Schmitt. Merci beaucoup et à très bientôt.